Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, c'est mardi, l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles où chaque jour on va pouvoir réentendre, si vous avez raté l'émission, l'un des témoignages forts entre Agathe Le Caron et son invité. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui concerne énormément de familles, les 10, comme on dit, 10, D, Y, S. On va d'abord entendre un témoignage, celui d'une maman qui s'appelle Vicky, qui est la maman d'Ulysse, qui a 10 ans. Elle va nous raconter le quotidien avec Ulysse, justement. Et puis, nous serons avec un psychiatre, le docteur François Pinabel, qui nous donnera plein de bons conseils et son analyse rapport à ce témoignage. Bien évidemment, le podcast des maternelles, c'est parti!
Alors, on n'imagine pas à quel point les troubles répandus comme la dyslexie, la dysorthographie peuvent assombrir la vie quotidienne d'un enfant. Bonjour Vicky.
Bonjour Agathe.
Vous en êtes l'exemple. Vous êtes la maman d'Ulysse qui a 10 ans. Et à cause de ces troubles, et surtout à cause, on va le voir, d'une errance médicale qui a duré, il s'est retrouvé en grande souffrance à l'école, Ulysse. À la maison, les devoirs, c'est devenu un cauchemar. C'est d'ailleurs souvent là que le problème se situe. Ça a été horrible aussi, évidemment, pour vous. Donc, merci d'être avec nous, parce que vous racontez votre parcours du combattant qui devrait peut-être ouvrir les chakras de certains de nos téléspectateurs. Alors déjà, Ulysse était comment sur les apprentissages quand il était tout petit, c'est-à-dire maternel, etc. Est-ce que vous aviez déjà repéré quelques petites choses ?
Pas du tout. En fait, on n'a eu aucun signe avant-coureur. Ulysse est un enfant très curieux, très doux. Il parlait très très bien, il était très en avance. Il avait beaucoup de vocabulaire. Il a toujours eu envie de se poser plein de questions et de poser plein de questions. Donc tout s'est bien passé.
Même en grande section, quand on commence à apprendre un peu les lettres, les sons et tout.
Oui, c'était peut-être un petit peu plus lent, mais ça ne nous a pas véritablement inquiétés parce qu'il avait cette facilité finalement à l'oral. Donc voilà, en grande section de maternelle, c'est en cours d'acquisition. C'est après.
Donc c'est en CE1 que là, ça a commencé, vous avez commencé à ressentir des troubles. Qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, à la fin du premier trimestre, la maîtresse d'Ulysse nous a convoqués parce qu'il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas dans la personnalité d'Ulysse. Il était très doué à l'oral, il s'exprimait très bien, posait des questions comme avant. Par contre, à l'écrit, ça ne suivait pas du tout. La lecture, ce n'était pas du tout fluide. À l'écrit, il était beaucoup plus lent que les autres élèves. Quand elle donnait quelques lignes de poésie à recopier, lui, il était en la ligne numéro 2, là où les autres enfants avaient terminé les 10 lignes de poésie. Donc elle nous a dit qu'il y a un décalage entre l'oral et l'écrit qui n'est pas normal. Peut-être que c'est une dyslexie, il faudrait que vous voyiez.
Voilà. Après, vous avez mis des choses en place quand même déjà au CE1, non ?
Bah, du coup, quand on est sorti de cette réunion, on était quand même un petit peu surpris. On est allé faire la tournée des spécialistes pour éliminer un à un, finalement, les différents facteurs. On a vu un ophtalmo, on a vu un ORL, rien du tout. Et on est allé voir un orthophoniste. Et là, ça a duré 2 ans. Il est allé jusqu'à 2 fois par semaine chez l'orthophoniste, sans aucun progrès, en fait.
Donc, elle vous disait quoi ? Elle n'avait pas posé de diagnostic.
En fait, au bout de 2 ans, elle a fini par nous dire qu'il avait un trouble sévère du langage écrit, ce qui, pour nous, ne voulait pas dire grand-chose. On a dit, mais est-ce que c'est de la dyslexie ? Parce que, finalement, quand on va retourner à l'école avec trouble du langage écrit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment ça se rééduque ? Et elle n'a jamais posé le diagnostic de dyslexie.
Donc, pas de diagnostic véritable, en tout cas, parce que, finalement, c'est un peu ce que ça veut dire. Mais, en tout cas, le mot n'est pas posé. Ouais. Et Ulysse, il commence à perdre pied à l'école, lui, pendant
Exactement.
Ce temps-là.
Il perd totalement confiance.
Je pense qu'il est en décalage, il est en retard. Donc, ça doit être très dur avec ses petits camarades.
Exactement, parce qu'en fait, en parallèle de l'orthophonie, on a vu aussi une psychothérapeute qui était spécialiste des troubles d'apprentissage. Et elle a détecté qu'il était au potentiel. Donc, Ulysse, finalement, se rend compte que par rapport aux autres enfants, il a beaucoup de difficultés pour lire, pour écrire, etc. Et en même temps, il sait qu'il est très intelligent. Donc, il ne comprend pas. Donc, il perd confiance en lui. Et là, ça devient absolument terrible de voir un petit bout de chou qui, littéralement, perd pied.
Et du coup, dans la famille, ça a posé des problèmes à la maison ?
Oui, c'était compliqué parce que il était confronté en permanence à ses difficultés. Donc, c'était de la frustration, c'était de la colère. Quand il fallait faire des devoirs, il était à bout. En fait, il refusait absolument de se mettre au travail. Quand il voyait la liste des exercices à faire, il disait « mais je ne vais jamais y arriver, c'est beaucoup trop long ». Donc, il y avait une tension permanente.
Et puis, je dirais une attention aussi, une tension et une attention permanente
exactement,
de votre part.
Une attention et une surattention, finalement.
C'est ça, qui du coup peut créer des petits problèmes aussi avec le grand frère.
Exactement, parce que le grand frère qui, lui, n'a pas de difficultés de ce genre, était plutôt bon élève, comprenait pas, il n'arrivait pas à réaliser ce que ça voulait dire d'avoir des difficultés pour lire, pour écrire, etc. Donc, du coup, il nous disait, mais pourquoi vous passez autant de temps avec lui et tous ces rendez-vous et c'est pas normal et moi, etc. Donc on lui explique les difficultés d'Ulysse, qu'il a besoin d'aller voir l'orthophoniste, qu'il faut l'accompagner, que c'est plus compliqué, mais voilà, ça restait un enfant.
Difficile, bien sûr. Donc, et ça a été au point qu'un jour Ulysse vous a dit, moi j'en peux plus, je veux mourir, j'en ai marre.
Oui, parce qu'en fait, c'est un garçon qui est extrêmement empathique, il est extrêmement sensible et il est très lucide sur la situation. Et donc, quand vous allez comme ça deux fois chez l'orthophoniste toutes les semaines, que vous ne voyez pas de résultat, que chaque fois que vous vous confrontez aux devoirs, à l'école, c'est tous les jours et c'est difficile, c'est dur. Et donc, il dit, mais si la vie, c'est tout le temps comme ça, ça sert à quoi ? Moi, j'ai envie de mourir, je n'ai pas envie de vivre une vie comme ça. Donc là, c'était dur.
Alors, vous avez décidé de le changer d'école et en parallèle, vous continuez à vous battre pour avoir un vrai diagnostic.
Oui.
Que vous aviez peut-être déjà quand même dans un coin de votre tête, vous ?
Pas vraiment, parce que finalement, quand un orthophoniste vous dit pendant deux ans « Non, mais ce n'est pas de la dyslexie, c'est un trouble du langage écrit », vous évacuez ça. Donc on s'est dit, si la rééducation ne fonctionne pas, on va changer autre chose. Donc, on a décidé de le changer d'école, effectivement. Et on l'a mis en Montessori pendant deux ans. Et là, au début, ça lui a fait du bien, parce que Montessori, c'est quand même des effectifs qui sont réduits par rapport à l'éducation nationale. Ils sont 15 enfants par classe.
Et donc, les enfants sont plus entourés.
Exactement, il y a plus d'attention. C'est presque du sur-mesure, finalement. Donc, quand il y a des choses qui ne sont pas assimilées, tout de suite, on peut y remédier, etc.
D'aller voir un neuropsy ensuite.
Tout à fait.
Et là, le diagnostic tombe. Alors, c'était quoi le diagnostic ?
Oui, parce que finalement, Montessori, c'était bien au début. Puis après, on s'est rendu compte qu'il stagnait. Donc, il fallait vraiment qu'on comprenne ce qui se passait. Et le bilan qu'on fait dans ce centre de neuropsy nous dit TDA, donc trouble de l'attention, peut-être avec hyperactivité. Il confirme le diagnostic de haut potentiel. Et puis, il nous dit il y a aussi des troubles 10. Donc, ils mettent l'attention sur la dysgraphie, donc le fait d'écrire plus lentement. La dyslexie est évoquée, mais plus subtilement. C'est après, quand on aura une nouvelle orthophoniste, que vraiment là, on aura dyslexie, dysorthographie.
Ça a duré combien de temps en tout avant d'avoir un diagnostic, du coup ?
3 ans et demi, ouais, 4 ans.
C'est énorme. Alors, vous, comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a dit il est multidys ? J'imagine que c'est un mélange. Et à la fois, enfin, on a un diagnostic. Et en même temps, on n'espérait pas...
Oui, on est un peu tombé notre chaise quand on nous l'a dit, parce qu'on l'avait un peu évacué. Et effectivement, il y a du soulagement de savoir, parce que quand on sait, on peut comprendre, on peut s'informer, on peut comprendre et on peut chercher les bonnes solutions pour l'aider. Et ça, c'est extrêmement important. Sinon, avant, on patauge, on pédale dans la semoule et il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de résultat.
Alors, pour qu'on comprenne bien, pour que vous qui nous regardez, vous compreniez bien ce qu'est la dyslexie, la dysgraphie, la dysorthographie, vous allez nous expliquer un peu comment ça se manifeste dans les cahiers d'Ulysse, qu'on va voir d'ailleurs. Je crois qu'on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors, comment ça se manifeste, qu'on comprenne bien ?
Alors, la dyslexie, c'est une difficulté pour lire, c'est-à-dire que la lecture n'est pas fluide. Donc, quand on demande à Ulysse de lire un texte, souvent, il nous dit « mais les lettres, elles dansent devant moi ». Donc, les lettres, les espaces, donc c'est compliqué, si tout bouge, de pouvoir véritablement identifier les mots et les lire les uns à la suite des autres.
Le mot n'est pas fixé.
Le mot n'est pas fixé et il n'est pas reconnu systématiquement. Des associations aussi entre des lettres et des sons. Là où nous, par exemple, il réside au pluriel, le ENT à la fin. Nous, on voit tout de suite, quand on n'est pas dit, ce que réside, ça va se dire réside. Mais lui, il ne sait pas si c'est réside, résident, résidente. Et dans son cerveau, c'est pas assimilé et
vraiment,
ça peut changer.
Ça doit être fatigant en plus.
C'est épuisant.
Ça doit demander un effort. Alors, il y a le diagnostic qui est posé et après, il y a la galère aussi pour trouver la bonne prise en charge. Comment est-ce que vous avez fait ?
Alors là, c'était l'autre parcours du combattant, parce que quand on a ce diagnostic, c'est en cours d'année, et toutes les places dans les cabinets d'orthophonie sont prises. Mmh. Donc je pense que j'en ai appelé une vingtaine sur Paris, dans tous les arrondissements, on était sur liste d'attente, on ne nous rappelait pas. Et puis à un moment, je fais des recherches sur Internet, et puis en désespoir de cause, je tombe sur l'association Puissance 10 et l'orthophoniste Béatrice Sauvageau. Et là,
ça y est. Vous avez eu une vraie prise en charge, des vrais conseils.
On est arrivé quelque part et c'était génial parce qu'on était face à quelqu'un qui comprend véritablement les 10 et qui vous explique ce que c'est quand vous n'êtes pas 10. Donc c'était un soulagement incroyable.
Du coup, il a fait quelques stages avec elle. Ça a servi à quelque chose ? Vous avez senti des progrès ?
Oui, ça l'a énormément aidé parce que ce n'est pas juste une prise en charge d'un trouble. Ce n'est pas juste « je vais t'aider à apprendre à lire, je vais t'aider à apprendre à écrire ». Ça, à la limite, on le voit avec l'ergothérapeute. C'est « je vais t'expliquer qui tu es ». Parce que je disais tout à l'heure qu'Ulysse, c'est quelqu'un de très lucide. Donc, il voit bien qu'il est en décalage par rapport aux autres. Donc, c'était extrêmement important pour lui de comprendre qu'il y a des 10 et qu'il y a des non-10. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des difficultés, mais c'est aussi des défauts. C'est aussi des qualités. C'est de l'hyper-empathie, c'est de la créativité, c'est de la différence, c'est de la perception très, très fine. Et donc, tout ça, il faut capitaliser là-dessus. Et donc, il a ressenti un bien-être du fait d'être compris, un soulagement. Et puis, il y a aussi, évidemment, de la thérapeutique avec de la rééducation, grâce à des choses qui sont ludiques, des choses qui sont faites sur le rythme. Mmh. Et on travaille la neuroplasticité aussi du cerveau. Donc lui, ça lui a fait énormément de bien.
En tout cas, il est très très beau, hein, parce qu'on vient de voir sa photo. Mais c'est vrai que quand on vous écoute, on se dit finalement, ces spécificités, elles sont très difficiles dans les périodes d'apprentissage. Mais après, ça fait des adultes, il faut le redire, hein, ouais. Qui ont des spécificités, mais du coup, qui sont complexes et formidables et qui vont trouver forcément aussi leur voie s'il y a une bonne prise en charge. Il va comment aujourd'hui ? Et vous, comment est-ce que vous allez ?
Alors, Ulysse va bien. Il rentre en sixième. Il est très motivé. Il est super content. Il a refait un stage cet été avec Béatrice et je l'ai accompagnée aussi parce qu'elle fait des stages parents-enfants qui nous aident, nous aussi, parents, à comprendre notre enfant et apprendre des techniques aussi d'apprentissage avec lui. Et c'est extrêmement important pour les parents d'être impliqués dans la rééducation de leur enfant et dans la compréhension de leur enfant. Et donc, il est super motivé. Après, voilà, les troubles sont là, il les aura toute sa vie. Donc, quand on lui demande d'écrire beaucoup de textes à l'école, c'est fatigant pour lui. Si jamais on doit lui demander de lire un texte à l'oral, il est absolument terrorisé. Même dans les devoirs à la maison, lire 3 pages d'Ulysse, l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée, il est extrêmement angoissé. Donc, il faut quand même
toujours... Il est toujours aussi bon à l'oral, il sera avocat. Il va être avocat, il ne va pas écrire de bouquin, mais il va être un grand orateur.
En tout cas, il négocie très très bien.
Ah bah voilà. Bonjour, docteur François Pinabel.
Bonjour.
Merci d'être dans la maison des maternelles. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Salpêtrière, je vais y arriver, hein. Et en libéral, donc vous prenez beaucoup d'enfants 10 en charge, vous connaissez très bien le sujet. On l'a vu dans le parcours d'Ulysse, c'est ultra difficile déjà de poser un diagnostic, de trouver une prise en charge. C'est dur pour toute la famille. Quelles conséquences ces troubles 10 peuvent avoir sur la vie quotidienne des enfants et des adolescents ?
Les conséquences, elles sont multiples. D'abord, sur la sphère scolaire, effectivement, où c'est, comme le disait la maman de vous, Vicky, effectivement, les difficultés, le parcours du combattant dans les apprentissages que peuvent rencontrer les enfants. Et puis, au sein de la maison, ce qu'on rencontre, c'est des parents qui sont confrontés à des difficultés d'apprentissage où ils sont derrière à faire un petit peu le back-office de ce qui n'a pas été fait à l'école, par exemple. Et donc, ce sont souvent des parents qui passent énormément de temps à soutenir leur enfant, à faire des adaptations, des apprentissages qui ne se font pas forcément. Et ces adaptations ne vont pas forcément se faire parce que, très souvent, le diagnostic n'a pas été posé, justement. Donc, on reste dans un flou. Pendant plusieurs années, les parents vont essayer de suppléer, de soutenir leur enfant. Et finalement, ça peut prendre beaucoup de temps avant d'avoir un diagnostic. Quant à la vie de famille, effectivement, automatiquement, elle est impactée parce qu'on passe beaucoup plus de temps que dans une famille classique à travailler, notamment le week-end. C'est vraiment très compliqué. Et ça va impacter aussi la vie de famille avec les frères et sœurs, parce qu'effectivement, dans beaucoup de familles, on passe plus de temps avec le petit frère ou la petite sœur au détriment des autres enfants.
Vicky l'a très bien expliqué, en effet. Ouais. Ouais.
au détriment de la vie de famille, de faire des activités ensemble. Donc ça peut générer des tensions, enfin, ça peut être extrêmement éprouvant psychologiquement, puisqu'il s'agit d'un parcours sur du long terme en plus. Donc ça peut générer des stress chroniques. Et par exemple, pendant le confinement, c'était encore pire, puisqu'on avait des parents qui devaient faire l'école à la maison pour leur enfant.
Ça,
il y avait des troubles 10. C'est une catastrophe.
Imaginez avec des troubles 10.
Alors Clara vous demande, est-ce qu'on peut très rapidement expliquer les différents troubles 10? C'est vrai que les téléspectateurs, les parents et les grands-parents qui nous regardent peuvent avoir envie de savoir concrètement.
Alors là, on a parlé dyslexie, voilà. Dysorthographie.
Et TDAH.
Et TDA.
Oui. Alors en fait, l'étymologie du mot 10 lui-même, qu'on met devant, c'est un préfixe que l'on peut mettre devant des termes, veut dire mauvais fonctionnement. Donc c'est très simple, hein, vous pouvez mauvais fonctionnement du langage, mauvais fonctionnement au niveau de moteur. On parle des troubles 10 sur tout ce qui va, en fait, pendant les apprentissages de l'enfant, de 3 ans à, on va dire, 25 ans, même s'il fait des études supérieures, on va solliciter, on va voir se développer les différentes sphères que sont la sphère motrice, la sphère du langage, et la sphère cognitive. Ça, ce sont les trois grosses fonctions qui vont permettre de faire développer les capacités de l'individu, sans compter une quatrième sphère qui est un peu particulière, qui s'appelle la sphère des fonctions exécutives, qui est un peu le chef d'orchestre de tout le monde.
C'est la dyspraxie, ça ?
Non, la dyspraxie, ça fait partie des troubles moteurs.
D'accord.
Les fonctions exécutives, c'est encore autre chose, c'est un petit peu le chef d'orchestre qui va piloter D'accord. tout le monde. Toujours est-il qu'on va solliciter, on va voir se développer ces compétences au fur et à mesure. Les premières d'entre elles, bien sûr, c'est le moteur. On voit d'abord l'enfant commence à apprendre à marcher, etc. Puis il commence à apprendre à parler, le langage oral, et on voit au fur et à mesure se développer les différentes compétences. Raison pour laquelle on ne va pas solliciter les compétences chez les enfants de la même façon que ça soit en maternelle, en primaire ou au collège.
Oui,
on va s'adapter en fonction du développement naturel du cerveau, si je veux dire. Donc les fonctions cognitives, elles, vont se stabiliser à 17 ans. Après 17 ans, vos capacités intellectuelles vont rester figées, entre guillemets. Les fonctions motrices, c'est souvent bien avant. Et le langage aussi, bien sûr, parce qu'on commence à apprendre notamment le langage écrit, donc lire et écrire, à partir du CP. C'était l'illustration de ce qui s'est passé pour Ulysse, c'est-à-dire qu'on a commencé à détecter des problèmes dans le langage écrit, plutôt en CE1, parce qu'en général, on se laisse le temps. Tous les enfants n'ont pas le même rythme pour travailler. Donc on se laisse le temps de voir comment sont pu se faire les acquis en CP. Et on voit si effectivement en CE1, les choses commencent un peu à se fragiliser.
Oui, c'est le moment charnière.
Hein. On a reçu une question en voyant vidéo pour vous de Séverine, regardez.
Bonjour, maman de 3 enfants, Robin 20 ans, Mathis 17 ans, Coraline 7 ans. Deux de mes enfants sont dyspraxiques visio-spatiales. Je me demandais si les troubles 10 étaient héréditaires.
Alors la dyspraxie visio-spatiale, on parle des troubles moteurs. On peut avoir des enfants qui ont des retards moteurs homogènes. On peut avoir des enfants qui ont ce qu'on appelle les dyspraxies. Les fonctions praxiques, c'est les capacités de coordonner le mouvement. C'est plutôt le mouvement fin, parce que vous avez aussi la coordination globale. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes fonctions et ce n'est pas la même région du cerveau qui sont impliquées. Mais la praxie, voilà, ça peut se manifester. Il y a 3 grands troubles praxiques. Les troubles visio-constructifs, visio-spatiaux. Et donc, ça va être la capacité que va avoir votre cerveau à coordonner l'information qu'il va recevoir avec l'usage de la main, par exemple.
D'accord. Alors, est-ce que c'est héréditaire ?
Il y a des facteurs héréditaires. Mais dans tous les troubles 10, de toute façon, c'est multifactoriel et il y a des facteurs héréditaires possibles. Il y a des familles, effectivement, où vous avez des dyspraxiques, des enfants TDAH. Donc, on peut avoir des familles où il y a cette entité.
Maintenant, mais il n'y a pas de règle absolue, quoi.
Il n'y a pas de règle absolue. Il y a d'autres facteurs de risque, comme notamment les accidents autour de la naissance, la prématurité. Il y a plein de paramètres. Mais c'est vrai que lorsque vous avez des familles, vous avez des phénotypes identiques, se pose la question d'aller même chercher de faire un bilan génétique. Et on retrouve de plus en plus maintenant des gènes candidats qui pourraient expliquer certains troubles 10.
On a reçu une question de Katia qui vous demande vers quel âge en moyenne peut-on détecter les troubles 10? Alors j'imagine que ça dépend des troubles.
Exactement, c'est ce qu'on disait, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça va dépendre de quel trouble, de quelle fonction on parle. Les troubles moteurs, on peut les détecter très tôt, à partir du moment où l'enfant a un retard, notamment pour la marche, par exemple. En revanche, le trouble du langage, comme je pouvais l'expliquer, c'est
vous
à partir du
CP,
voilà.
Effectivement, CP, c'est une année un peu trouble où les enfants vont pas.
C'est une année vraiment charnière, voilà. En fait, l'année un peu typique pour beaucoup de troubles 10, ça va être la grande section maternelle, où on commence à travailler sur le graphisme, notamment. Donc, pour tout ce qui est troubles praxiques, on peut aussi les voir.
Et on peut pas poser un diagnostic en grande section, c'est-à-dire qu'on commence
c'est
un
délicat.
Peu.
C'est très délicat. Voilà. Mais les troubles moteurs, oui, on peut.
C'est ça.
En revanche, les troubles du langage oral, on peut aussi. mais pas les troubles du langage écrit, puisqu'on n'a pas encore appris à lire et écrire.
Donc on peut se dire qu'il est un peu en retard, mais
ou alors on le laisse un petit peu le temps. Voilà. De la même façon qu'une dyscalculie, on ne va pas pouvoir la détecter avant de commencer à calculer.
Alors Tina vous demande, mon enfant de 7 ans tient très mal ses cahiers, peut-être aussi ses stylos, et il écrit très lentement. Dois-je m'inquiéter d'une dyslexie ou d'une dysgraphie ?
Alors, et c'est tout la difficulté, c'est d'aller rechercher effectivement quel type de bilan je dois faire. En fait, ce qui est l'illustration tout à l'heure du cas concernant le fils de Vicky, c'est qu'il y a eu des petits tests qui ont été faits au fur et à mesure, mais on oublie trop souvent que les troubles 10, vous pouvez avoir plusieurs troubles 10 en même temps. Oui. On va avoir ce qu'on appelle, dans la super famille des troubles neurodéveloppementaux, vous pouvez avoir les troubles 10, le trouble du spectre de l'autisme et le TDAH. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'on peut avoir plusieurs troubles à la fois. Le cerveau est une incroyable complexité et vous pouvez avoir plusieurs difficultés qui vont se manifester dans ces différents domaines. Donc le réflexe que l'on doit avoir quand un enfant présente des troubles d'apprentissage, parce que ça va être la porte d'entrée classique, c'est d'aller faire un bilan global. Non pas se contenter de faire un bilan orthophonique ou psychomoteur ou neuropsychologique, mais envisager de faire le bilan global. Raison pour laquelle il faut un coordonnateur, en fait.
Et souvent, mais est-ce que le trouble de l'attention n'entraîne pas naturellement quand même les troubles 10? Parce qu'un trouble de l'attention...
Ils vont se nourrir. Un enfant qui va avoir une dyslexie d'orthographie et avec un trouble attentionnel, la rééducation orthophonique va être totalement inefficace puisqu'il a du mal à rester concentré sur l'orthophonie. D'où l'intérêt d'aller vraiment regarder tout l'ensemble des difficultés potentielles que pourrait avoir l'enfant.
Donc il faut un suivi pluridisciplinaire. Ça se fait partout en France ?
Ça ne se fait pas partout en France, malheureusement, parce qu'on n'a pas encore cette culture d'abord de l'appréhension des troubles neurodéveloppementaux. C'est quelque chose qui est assez récent. Mmh. Et même dans les classifications internationales, ça ne fait pas très longtemps que l'on parle de ces troubles neurodéveloppementaux en considérant que vous pouvez avoir plusieurs choses à la fois. Et donc on parle de trajectoire développementale des enfants. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas encore outillé pour faire un travail pluridisciplinaire, si ce n'est dans les centres référents hospitaliers, où là, vous allez avoir un bilan complet. Mais en ville ou même dans des structures plus locales, on n'aura pas forcément ce type de structure. Et on manque cruellement de moyens, par exemple.
Donc vous avez des gens de toute la France qui viennent à la Pitié pour faire ces...
Pas toute la France, non. On a des centres référents un peu dans chaque région. Mais par exemple, la difficulté des centres référents, c'est dans certains centres référents, il y a 2 ans d'attente pour avoir un premier rendez-vous. Donc il n'y a pas le relais pour des bilans que l'on pourrait faire en première intention, notamment un travail d'équipe qui pourrait être fait localement entre orthophonistes, psychomotriciens, neuropsychologues, pédiatres, pédopsychiatres, etc.
Ça va de mieux en mieux quand même, on peut avoir...
Non.
Ok, bisous.
Malheureusement, non, ça ne va pas de mieux en mieux, notamment parce qu'on manque cruellement de professionnels. Là, le nombre des parents qui sont à la recherche depuis la rentrée de septembre d'orthophonistes, l'autre problème qu'on a, c'est que quand vous voulez faire un bilan neuropsychologique ou un bilan psychomoteur qui puisse après déboucher vers une prise en charge, en libéral, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc il faut après, deuxième parcours du combattant, faire un dossier MDPH à la maison des personnes avec handicap, mais qu'on appelle aussi la maison des adaptations, la MDA dans certains départements, pour demander une aide financière que vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir récupérer.
En clair, les gens qui ont les moyens trouveront toujours un moyen de se débrouiller. Et les autres devront attendre 2 ans.
C'est un peu plus compliqué que ça, puisque non seulement il y a ce paramètre-là, mais en plus, selon le département où vous allez habiter, vous n'aurez pas la même offre de soins. Plus. Donc il y a vraiment une disparité, une inégalité complète dans les troubles neurodéveloppementaux. Et le problème principal, c'est que ce sont des handicaps invisibles. Donc on va mettre longtemps à pouvoir les détecter. Et vous avez des enfants qui finissent par être en souffrance, qui font des dépressions, des troubles anxieux, des phobies scolaires.
Ils sont harcelés à l'école. Exactement. Est-ce que dans les écoles, vous avez l'impression quand même que les profs sont plus alertés sur ce genre de troubles et donc mieux formés, tant est qu'ils puissent l'être, ou en tout cas s'auto-former?
C'est extrêmement important, parce qu'on peut vraiment dire que les enseignants sont en première ligne de détection des troubles d'apprentissage, parce que c'est eux qui apprennent à nos enfants à... les apprentissages. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas la même sensibilité à l'école primaire, où effectivement, on a quand même un enseignant avec ses élèves, en one-to-one, quelque part, alors qu'au collège-lycée, vous avez 10 professeurs. Enfin, on est dans une logistique qui est bien plus compliquée pour pouvoir trouver, détecter des problèmes. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de mettre en place des accompagnements collège-lycée. Il y a une loi en 2005 qui est sortie qui permet d'intégrer les enfants avec des besoins spécifiques. Donc, il a fallu faire une loi quand même pour ça. Mais malgré tout, ça reste compliqué à appliquer. Donc, il y a plusieurs dispositifs d'accompagnement, ce qu'on appelle le PAP, le PPS, enfin, il y a plein d'acronymes, qui permettent de faire des accompagnements. Ça commence à se développer de plus en plus, mais ça peut rester compliqué. Et ça dépend vraiment de l'équipe pédagogique qu'on a en face de soi.
Alors, Lynn vous demande, mon enfant est multidis et avec tous les rendez-vous chez les spécialistes en plus de l'école, j'ai très peur qu'il s'épuise. Que faire ?
C'est clair.
C'est quoi l'arbitrage ?
Les troubles neurodéveloppementaux, de façon générale, ce ne sont pas des pathologies, ça va être quelque chose qui va dysfonctionner. Donc vous allez passer votre temps, votre cerveau va passer du temps à compenser. Il va dire, bon, là, il va falloir que je dépense plus d'énergie pour faire ça, ça va être beaucoup plus coûteux. Donc vous avez des enfants qui, tout au long de leur scolarité, vont surcompenser, vont avoir une dépense d'énergie massive. Mmh. Donc si vous leur faites faire l'orthophonie, la psychomotricité, l'harmonisation cognitive après les cours, c'est la double peine. Ce sont des enfants qui sont déjà beaucoup plus fatigués que les autres. Donc la règle, c'est de mettre les prises en charge en rééducation sur le temps de l'école. Par exemple, mettre l'orthophonie le matin avant d'aller à l'école. Il y a maintenant des ergothérapeutes qui se déplacent dans les écoles aussi. Donc, il y a moyen de pouvoir alléger le planning et s'accorder. De toute façon, un enfant qui va avoir un trouble du langage sévère, ça va être toujours plus bénéfique qu'il fasse une demi-heure, trois quarts d'heure d'orthophonie avant d'aller en classe sur le temps scolaire, parce qu'il va être frais, plutôt que le faire à 17h où c'est une totale ineptie parce qu'il est totalement épuisé.
Encore faut-il trouver des spécialistes qui soient disponibles et qui puissent intervenir.
C'est ça le problème.
Alors, les orthophonies, c'est un sketch. Franchement, c'est un truc de dingue, moi, pour en avoir cherché une, mais des mois.
Et le pire, c'est aussi la logistique des parents. C'est-à-dire que si vous avez les deux parents qui travaillent et qui doivent se déplacer chez l'orthophoniste, quand vous avez un enfant qui a un trouble justement multidis ou de nombreuses difficultés,
ça devient lourd pour tout le monde.
Ça devient lourd pour tout le monde. Et sans compter, ce qu'on disait tout à l'heure, les aides financières. Pour la prise en charge de ces enfants ne sont pas du tout à la hauteur de ce que dépensent les parents.
Donc, bien sûr. Il y a des pays où les écoles, justement, proposent des places pour les ergothérapeutes, pour les orthophonistes, au sein même de l'école.
À l'école primaire, on commence à voir ça pour les ergothérapeutes. Mais les orthophonistes ne se déplacent pas systématiquement. Ouais. Quelques écoles le proposent, mais ce n'est pas encore la culture dans notre pays, comme on peut voir dans les pays anglo-saxons, notamment.
Paul vous demande un conseil. Je suis papa d'une enfant de 10 ans qui est multidis, ce que vous disiez tout à l'heure. Quelle nouvelle façon d'enseigner peut-on nous conseiller pour rendre l'épisode des devoirs moins douloureux ?
Alors, multidis veut dire qu'effectivement, il faut identifier quels sont les supports qu'on va devoir adapter. On ne devrait pas parler de handicap, on devrait parler de capacité de s'adapter à l'enfant dans les apprentissages. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que grâce aux enfants qui ont des troubles multidis, ça oblige les pédagogues à modifier leur support pédagogique. Et support pédagogique, finalement, vous apercevez que les enseignants, vous les appliquez aux autres enfants. Ouais. Utilisation des QCM, des cartes mentales, des frises chronologiques, enfin, il y a tout un tas d'outils qui ont pu se développer depuis une dizaine d'années, 20 ans même, et qui sont totalement récupérés par les enseignants pour tous leurs élèves. Pareil, l'utilisation d'un time-timer qui permet à l'enfant de pouvoir avoir la notion du temps visuel. Il y a beaucoup d'enseignants maintenant qui mettent le time-timer au milieu de la classe pour tout le monde. Donc c'est vraiment très enrichissant parce que ça incite les enseignants à modifier leur façon d'enseigner.
Mais alors pour les devoirs, pour ce papa ?
Pour les devoirs, c'est pareil. Il faut d'abord être en synchronisation avec l'équipe éducative, l'enseignant, et effectivement qu'il puisse avoir des supports pédagogiques que va lui donner l'enseignant et ou l'orthophoniste ou le psychologue spécialisé.
C'est un travail de groupe, quoi.
Un travail d'équipe. Mmh. Toujours systématiquement. C'est ça la clé.
Puis de réussir à garder son calme, non ? Parce que c'est déjà dur de faire des devoirs avec des enfants qui n'ont pas de 10.
Une fois le diagnostic posé, déjà, je crois que les parents.
Il y a au moins une raison, quoi.
Voilà, il y a énormément de parents qui culpabilisent quand vous leur donnez le diagnostic. Certains même peuvent finir en pleurs parce qu'ils disent le nombre de fois où je l'ai disputé, je l'ai grondé, je l'ai puni. C'est une véritable souffrance. Il y a souvent un travail psychologique à faire pour ça. Parce que c'est une totale incompréhension et d'un seul coup, vous avez des parents qui vont culpabiliser.
C'est marquant pour un enfant, malgré tout.
Sans compter les familles où les parents ne sont pas forcément d'accord dans la situation et ça peut générer des conflits. On sait que dans les familles des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, vous avez beaucoup plus de divorces que dans les familles qui n'en ont pas. Donc ça génère une tension dans la situation familiale qui peut être très éprouvante pour les parents.
Émilie vous demande, ma fille est une grande prématurée, y a-t-il des chances qu'elle ait des troubles de l'apprentissage plus tard ?
Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, les troubles neurodéveloppementaux, les troubles multidis, c'est multifactoriel. Et la période cruciale, ça va être autour de la naissance, le cerveau du bébé est encore fragile, et pendant les trois premiers mois de vie, le cerveau n'a pas terminé de se développer, notamment la région préfrontale ici. Pour quelle raison ? Parce que si le bébé sortait avec un cerveau mature, il aurait une tête qui ne pourrait pas lui permettre de passer la filière génitale. Donc c'est vraiment l'évolution de l'espèce humaine. Donc quelque part, le petit homme naît prématuré naturellement, ce qu'on appelle la néoténie. Et donc pendant ces trois premiers mois de vie, c'est vraiment une période critique où c'est encore très fragile. Déjà quand il naît à terme. Donc déjà un enfant qui va naître prématuré, il peut avoir effectivement une fragilisation, une maturité cérébrale qui est encore moins avancée, des défauts d'oxygénation. Donc effectivement, c'est une période critique pour les enfants prématurés, parce qu'ils peuvent avoir effectivement des répercussions neurodéveloppementales très importantes dans les troubles d'apprentissage, les troubles 10, etc. Le TDAH aussi, la prématurité est un facteur risque dans le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité.
Donc à surveiller.
Mmh.
Voilà, merci beaucoup docteur Pinabel, merci beaucoup à Vicky, la maman d'Ulysse, Ulysse que l'on embrasse. Si ce podcast vous a plu, vous savez quoi, n'hésitez pas à aller mettre quelques petites étoiles sur votre plateforme, un commentaire éventuellement, là ce serait le Graal, ça nous aide beaucoup à être mieux référencés. Et plus on est référencé, vous le savez, plus on est écouté, et donc nous, eh ben nous, on est contents. Voilà, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.